Je suis très heureux de m'adresser à vous pour témoigner de la manière dont François Dolto intervenait auprès de ses petits patients dans le cadre de la consultation de la rue Cujas. Je garde vivant le souvenir de ces séances d'analyse incomparables réalisées en présence d'un groupe de praticiens dont j'ai eu la chance de faire partie. Je dis bien séance d'analyse et non présentation des malades, car pour Dolto, le suivi de l'enfant qu'elle recevait était une véritable cure analytique. De ces années, je conserve précieusement le cahier bleu où j'ai noté sur le vif les interprétations les plus remarquables que Dolto adressait à ses jeunes patients dans les moments les plus intenses des séances. En le relisant à l'occasion de nos journées, l'idée m'est venue de vous proposer quelques-unes de ces interprétations marquantes qui produisaient des effets décisifs tant sur les jeunes patients que sur nous-mêmes, les analystes présents. Mais avant de vous faire vivre ces moments où Dolto communique son interprétation, je voudrais vous raconter comment s'est déroulée la consultation qui se tenait à Paris, dans une petite salle du 5e arrondissement, entre 1985 et 88. Voilà, vous voyez sur l'écran le plan de la salle où avait lieu la consultation. Madame Dolto et l'enfant étaient assis face à face, séparés par une petite table. Derrière Madame Dolto figurent les chaises des analystes participants. Dans cette salle, François Dolto recevait tous les vendredis matins des très jeunes enfants en grande difficulté psychique venant d'une pouponnière de la proche banlieue. Ces enfants, âgés de quelques mois à 4 ans, séparés de leurs parents, étaient porteurs d'un passé douloureux, voire tragique. Les cures, en général assez courtes, pouvaient se prolonger pendant 1 ou 2 ans, selon l'évolution des troubles et selon la durée du séjour de l'enfant à la pouponnière. La consultation des Cujas avait donc une double singularité: analyser des enfants de pouponnière, et ce, en présence d'un petit groupe de psychanalystes expérimentés. En effet, les analystes qui assistaient à la consultation n'étaient pas des débutants ni des observateurs passifs. Nous étions, au contraire, des participants actifs à la cure de l'enfant. Actif lorsque, par exemple, le petit patient, encouragé par Madame Dolto, s'adressait à l'un de nous directement ou à l'ensemble du groupe. Au moment d'entrer et de sortir, l'enfant disait « bonjour » à tout le monde et nous lui répondions. Souvent, François Dolto nous présentait à l'enfant en ces termes. « Tu vois, disait-elle, ces messieurs et ces dames vont travailler avec toi pour que tu deviennes heureux. » Il nous arrivait aussi à un moment propice d'une séance et à la demande de Dolto de chanter en chœur une comptine comme « Au clair de la lune ». Quelquefois, c'était les hommes seulement qui devaient chanter. Dolto disait « Seulement les hommes ». Nous n'étions pas très nombreux, mais il y en avait quelques hommes. D'autres fois, elle disait tous les voix résonnaient à l'unisson. Mais dans tous les cas, gagnée par le frisson de cette vibration partagée, nous nous sentions en prise directe avec l'inconscient de cet enfant qui était là, devant nous, étonné de nous entendre. Comme si Dolto, en nous demandant de chanter, savait qu'à ces moments de la séance, nos voix, mieux qu'une parole interprétative, nos voix feraient éprouver à l'enfant les sensations sécurisantes qu'il n'avait pas vécues bébé. La douceur d'une voix maternelle, l'autorité d'une voix paternelle et parfois l'harmonie des deux voix conjuguées. Voilà pourquoi je dis que nous étions des analystes participants. Nous étions plus que des témoins de l'acte analytique. Nous étions partie prenante de l'acte et parfois même garant de l'acte. Je dis garant de l'acte car il arrivait que Françoise, au milieu d'une séance, ne comprenne pas l'enfant, soit envahie par le doute, s'interroge tout haut et nous interroge. Je me souviens du cas d'Aïcha, une petite fille gravement psychotique que Dolto a suivie pendant 2 ans. À chaque séance, Aïcha, inconsolable, pleurait sans discontinuer. Elle entrait dans la salle en pleurant, pleurait tout au long de la séance et repartait toujours en pleurant. Avant même qu'elle ne franchisse la porte du 21 rue Cujas, nous l'entendions déjà dans la rue hurler sa douleur. Et nous nous disions « Ah, c'est l'heure d'Aïcha !» Incontestablement, elle était le patient le plus difficile à suivre, mais aussi à supporter. À tel point qu'un collègue de notre groupe, ébranlé par tant de souffrances chez un petit enfant, préféra renoncer définitivement à la consultation. Aussi, lors d'une séance durant laquelle Aïcha, plus désemparée que jamais, étendue par terre, criait et martelait le sol avec la tête. C'était impressionnant, c'était poignant. À ces moments, Dolto s'élève de sa chaise, s'agenouille, passe de l'autre côté, s'agenouille à côté de l'enfant, essaie en vain de l'apaiser et lui avoue alors « Je ne sais plus quoi te dire pour t'aider. » Puis, sans cacher son impuissance, elle se tourne vers nous, nous regarde, hausse les épaules, ouvre ses mains comme pour s'excuser de ne savoir que dire à l'enfant et nous demande à nous de lui souffler le mot qui calmerait la petite fille. C'est une image que je n'oublierai jamais. Vous comprenez pourquoi Dolto a été un maître pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'elle n'avait pas peur de se montrer défaillante ni d'être jugée par ses pairs ou ses élèves. Elle faisait confiance à son ressenti, fut-il le ressenti d'une faiblesse. L'essentiel de ce que Dolto m'a appris, c'est de faire confiance à notre ressenti d'analyste, de travailler avec notre ressenti, à condition que ce ressenti soit sans cesse corrigé par la clinique et affermi par la théorie. Or, la même Françoise Dolto, capable d'avouer son impuissance, était aussi capable de trouver le mot le plus juste, de trouver le mot qu'il faut et au moment où il faut pour apaiser son patient. À la petite Aïcha, qui dans une autre séance pleurait toujours par terre, Dolto dit cette phrase qui marqua un tournant dans la cure. Elle lui dit « Tu pleures comme un bébé malheureux, malheureux comme ta maman. Elle aussi est un bébé malheureux. » Je me souviens qu'à partir de ces jours, Aïcha a cessé de pleurer et de se faire mal. J'ai souvent pensé que l'interprétation de Dolto avait permis à Aïcha de comprendre, non pas avec sa tête, mais avec son cœur, que sa mère ne l'avait pas abandonnée par indifférence, mais par immaturité, par incapacité de s'occuper d'un enfant, étant elle aussi malade de tristesse. Devant une interprétation comme celle que vous venez d'entendre, la question se pose aussitôt. À quelle source Dolto puisait-elle son inspiration? Comment des mots si pertinents lui venaient-ils? Répondre en rappelant son immense expérience clinique, à mes yeux, ne suffit pas. Encore faut-il se placer dans le vif de la relation avec son petit patient et avancer l'hypothèse suivante. Les mots inspirés jaillissent chez Françoise Dolto lorsqu'elle réussit à se concentrer, à faire le vide en elle et à plonger mentalement dans l'inconscient de l'enfant. Que voulons-nous dire ? Que tout en gardant le contact avec l'enfant de la science et au-delà avec nous, les analystes participants, Dolto ressent consciemment l'émotion qui rend malade l'enfant et que lui ne ressent pas. C'est alors que Dolto parle à son petit patient et lui traduit avec des mots imagés, simples et vrais, l'émotion qu'elle vit à sa place, comme si elle le vivait par procuration. Et quand elle lui parle à l'enfant, quand elle communique sa parole, elle parle avec cette voix inimitable qui était la sienne. Une voix pleine, claire, vibrante, qui touche aux larmes, qui éveille, remue et apaise. Une voix portée par la conviction de dire ce qu'elle a à dire et de le dire à temps. Ce sont précisément ces mots simples et résonnants que je tiens pour les meilleures interprétations psychanalytiques, c'est-à-dire des paroles susceptibles de modifier le rapport du patient avec lui-même, fût-il un bébé. L'interprétation est une parole qui réconcilie le patient avec lui-même. Mais il est aussi et souvent une parole qui soulage. L'interprétation soulage parce qu'en la recevant, le patient, qu'il soit un enfant ou un adulte, découvre qu'il existe quelqu'un dans ce monde, le thérapeute, qui a saisi ce que lui, le patient, vit profondément. Comme si par le simple effet de constater qu'un autre connaît ma peine et m'en parle, je me sentais délivré. Voici maintenant quelques exemples de ces mots remarquables que je recueillis durant les années de la consultation. J'avais l'habitude de m'asseoir sur la première chaise à droite, située exactement à la hauteur de la table. Cela m'offrait un point de vue formidable, tel que la table m'apparaissait comme un court de tennis sur lequel s'est jouée la partie passionnante d'une séance d'analyse. Comme si la balle allait de Dolto à l'enfant, de l'enfant à Dolto, et j'étais là, c'était une place privilégiée. De toutes les paroles de Dolto que j'ai notées, j'en ai sélectionné quelques-unes que voici. En s'adressant à un enfant qui n'avait pas apporté le petit caillou du paiement symbolique de la science, elle précise « Je ne te verrai pas la prochaine fois si tu n'apportes pas ton paiement symbolique. Tu veux que ce soit par amour de toi que je te donne cette séance ? Eh bien non. » Voilà Dolto qui rappelle qu'un psychanalyste ne travaille pas par amour pour son patient. Il travaille à condition que le patient le lui demande et respecte le contrat de payer pour chaque séance. Un autre exemple. En s'adressant à un bébé de 10 mois, assis sur les genoux de l'assistante maternelle, car les enfants étaient accompagnés quelquefois par l'assistante maternelle, puisque c'était des enfants de la pouponnière. Donc le bébé était assis sur les genoux de l'assistante maternelle et il s'est montré étonnamment habile de ses mains en pétrissant un bout de pâte à modeler. Et Dolto lui dit, Dolto compatit plutôt, « C'est très dur d'être bébé quand on est intelligent. » En parlant ainsi, Dolto dissocie l'être immature d'un bébé et l'étonnant savoir intuitif qui le dépasse. Dans le même esprit, mais cette fois en s'adressant à un garçon de 3 ans, elle dit « Je trouve que tes mains sont très malines. Elles savent faire un poisson, même si tu ne sais pas que c'est un poisson. Tes mains savent dessiner toutes seules des formes que tu ne connais pas. » Un autre exemple. En s'adressant à une petite fille de 2 ans, victime d'une tentative de meurtre, et qui semblait un peu étourdie, un peu hébétée, Dolto intime vigoureusement, « Puisque tu as décidé de vivre, il faut maintenant que tu vives pleinement. » Il y a un autre moment de la séance, comme pour aiguillonner le désir de vivre de la petite fille, Dolto lance, « Est-ce que c'était bien que tu sois née ?» À une autre petite fille qui ne parle pas et tourne en permanence la langue dans sa bouche, Dolto interprète « Peut-être que la difficulté avec ta langue, c'est le fait que ton papa parlait la langue grecque. » Enfin, lors d'un premier entretien, avec un enfant de 3 ans, celui-ci lui demande « Toi, tu t'appelles comment ?» Et elle de répondre « Je suis Françoise Dolto, je suis psychanalyste et je dis la vérité de la vie aux enfants. » Je voudrais maintenant conclure en évoquant avec vous les différentes Françoise Dolto que je garde présentes dans mon travail et dans ma vie. Dolto, psychanalyste, qui s'identifie en silence à son petit patient et le délivre de sa souffrance. Dolto, maître, qui nous encourage à faire confiance à notre ressenti d'analyste et nous montre l'humilité de devoir toujours apprendre. Et pour terminer, Dolto, ami, qui s'inquiète et qui a peur. Combien de fois, sur le chemin qui nous conduisait à la rue Cujas, car j'allais moi la chercher chez elle et je l'amenais à la rue Cujas. Combien de fois, sur le chemin qui nous conduisait à la rue Cujas, m'a-t-elle surpris dans la voiture, en me confiant son trac, d'engager une nouvelle matinée de consultations. ce trac étonnant. À ce moment, Dolto avait 78 ans et une vie entière de pratique. Eh bien, ce trac étonnant était probablement l'un des secrets de sa réussite de clinicienne. Car son inquiétude devant l'épreuve se transformait sur la scène de la consultation en un formidable désir d'aller vers l'enfant, se transporter à l'intérieur de l'enfant, à l'intérieur de lui, coïncider avec ce qu'il a d'unique et lui parler. La peur devient désir et le désir se fait parole. Je vous remercie.